De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous retrouvons Franck Ferrand pour une émission exceptionnelle depuis Notre-Dame de Paris, un monument que tout le monde croit connaître et qui pourtant réserve encore pas mal de surprises. Bonjour cher Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je suis sur le parvis de Notre-Dame, exactement en surplomb du point zéro. Le point zéro des routes de France à partir duquel sont mesurées les distances à Paris des différents lieux à travers le pays. Et si je lève les yeux, j'ai devant moi l'écran de pierre gigantesque, vénérable, de la plus célèbre des cathédrales. C'est un pan sculpté et ses voussures gothiques, sa galerie de statues des rois de Juda, sa grande rosace, ses tours, et tout là-haut, ces colonnettes aériennes qui se découpent sur le ciel parisien. Bienvenue à Notre-Dame de Paris qui célèbre cette année ses 850 ans. Alors, depuis quelques semaines, pour célébrer ce grand anniversaire, on a construit ici, sur l'esplanade de Notre-Dame, un vaste praticable qu'on appelle le chemin du jubilé. C'est une sorte de rampe qui s'achève sur une tribune. Et depuis cette tribune, le regard envisage la façade ouest, on va dire d'un autre angle. Pour l'occasion, le magazine Pèlerin a édité un très beau numéro hors série rempli de prises de vue inédites réalisées grâce à un ballon radiocommandé. Et en ouverture de ce très beau magazine, la rédactrice en chef de Pèlerin, Catherine Lalanne, écrit, je la cite, « Notre-Dame n'est pas une cathédrale comme les autres. Au lieu spirituel, elle est aussi le théâtre de l'histoire de France, le grand livre de notre mémoire nationale, de Saint-Louis qui y porte pieds nus la couronne d'épines du Christ, au Tédéum chanté à la libération de Paris en passant par le sacre de Napoléon et l'enterrement de l'abbé Pierre, Notre-Dame vibre avec le peuple français, s'associe à ses victoires et au deuil de ses grands. » L'auteur des textes de ce numéro hors série, Philippe Royer, est à mes côtés, dans le vent, disons-le. Bonjour Philippe Royer.
Bonjour Franck.
Alors j'aimerais, avant d'entrer dans Notre-Dame et de nous plonger dans sa fabuleuse histoire, j'aimerais vous poser quelques questions sur celles qui, depuis quelque temps, sont les grandes absentes de la cathédrale. Les habitants du quartier le savent bien, c'est-à-dire les gigantesques cloches de Notre-Dame. Elles sont parties, ces cloches, c'est ça ?
Absolument. Il en reste quand même une. Alors, Emmanuel, le gros bourdon qui est la seule cloche rescapée de l'Ancien Régime.
Alors, quand on regarde la cathédrale, il est où ce gros bourdon ? Il est à droite, dans la tour sud, exactement.
À droite. Et les autres cloches, il y avait quatre cloches qui avaient été fondues dans les années 1860, qui ont été descendues en février dernier. On ne connaît pas très bien quel sera leur sort, en tout cas.
On ne sait pas ce qu'elles vont devenir, ces cloches.
Pas du tout, non.
Il y en avait six ?
Il y en avait quatre.
Alors, on avait au départ huit cloches et on va restituer ces huit cloches dans la tour nord, en fait.
Absolument.
C'est ça ?
Absolument. C'est l'ensemble campanaire tel qu'il existait sous l'Ancien Régime. Donc, ce sont ces huit cloches qu'on va retrouver.
Alors, nous sommes donc devant la cathédrale. On ne pourra pas les entendre, les cloches. Ce qu'on entend en ce moment, c'est le bruit du chantier de la tribune qu'on est en train d'achever d'installer pour cette année jubilaire. On va réinstaller l'ensemble campanaire en février. Pour une fois, les cloches ne reviendront pas à Pâques. Elles vont revenir pour la chandeleur, on va dire.
Non, absolument.
C'est le 2 février.
Voilà, le 2 février, les huit cloches fondues par Corneille Avare, donc dans la Manche, vont être déposées et consacrées à l'intérieur ou sur le pavis, je ne sais pas encore. Et puis, elles vont être jointes par un petit bourdon, Barry, qui a été fondu en Hollande, dans les Pays-Bas, dans une fonderie qui s'appelle Royal Eschboots.
Alors, comment les fond-on, ces cloches ? C'est assez extraordinaire. Il faut monter la température à des sommets. 1100 degrés.
1100 degrés.
Donc, ce qui suppose d'avoir des matrices dans un matériau très particulier qui est le même depuis le Moyen-Âge, du reste.
Tout à fait, même depuis l'Égypte antique. C'est un mélange d'argile, de poils de chèvre et de crottin de cheval.
C'est pas très moderne, mais c'est comme ça.
Ça marche en tout cas.
Et elles seront, il faut dire, décorées de motifs qui sont des motifs contemporains, bien entendu, et d'inscriptions religieuses, bien sûr.
Tout à fait. Alors là, le petit bourdon Marie comporte la prière, hein, je vous salue Marie.
Bien sûr.
Hein, qui est gravé, évidemment. C'est un décor un mélange de 19e siècle et 17e siècle. Mais en revanche, les quatre cloches fondues par Corny Havard ont un décor. Alors, Corny Havard parle un décor d'aujourd'hui, plus que contemporain.
Alors, vous l'entendez, vous entendez les sirènes, les moteurs, les bruits de chantier. La capitale continue de vivre autour de sa cathédrale comme elle le fait depuis 850 ans. Pour changer de son, si je puis dire, je vous propose d'entendre ce que donnaient les cloches avant qu'elles ne soient déposées.
La Hotte de Noël Europe 1.
C'est un petit côté folklore dans un cadre comme celui-ci, mais je dois vous rappeler que jusqu'au 25 décembre, sur Europe 1, la Hotte de Noël est de retour avec tous ces cadeaux à gagner. Et aujourd'hui, Julia, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cette Hotte de Noël ?
Évidemment, eh bien, nous vous proposons de jouer pour gagner un séjour détente et relaxation d'une semaine pour deux personnes dans l'Institut Thalazur Thalassothérapie et Spa. 4 étoiles de Port Camargue en formule demi-pension avec également 3 soins par jour et par personne. Valeur du séjour, s'il vous plaît, 2000 euros. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe, c'est le prénom Franck CK à la fin par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous.
En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, une émission spéciale depuis Notre-Dame de Paris. Et quelque chose me dit, Franck, que vous n'êtes plus sur le parvis.
Eh bien, pour tout vous dire, Julia, j'avais prévu de faire le début de cette émission sur le parvis de la cathédrale, mais le temps nous a obligés de nous réfugier à l'intérieur et nous sommes donc dans le narthex de Notre-Dame de Paris où nous reçoit le recteur archiprêtre de l'église cathédrale, Monseigneur Jacquin. Merci, Monseigneur Jacquin, de nous accueillir à bras ouverts dans ce qui est un peu la maison des Parisiens, disons-le.
C'est moi qui vous remercie. Oh, c'est la maison des Parisiens, mais la maison des Français et la maison même, j'ose le dire, du monde entier. Parce que vous savez que 20 millions de personnes par an viennent sur le parvis, c'est les chiffres de l'Office du tourisme, et sur ces 20 millions, 14 millions rentrent dans la cathédrale.
Franchissent, comme nous venons de le faire, voilà. le portail de Sainte-Anne. Alors, on avait prévu de décrire les tympans de ces trois portails. Vous les connaissez tellement par cœur qu'on peut le faire sans les avoir sous les yeux. Ils sont là juste derrière nous.
Bah, vous savez, il y a le Christ en gloire au centre.
Bien sûr.
Qui accueille évidemment ce monde-là. Et puis donc, quand on regarde la cathédrale, eh bien, vous avez sur votre droite le fameux portail Sainte-Anne. C'est la grand-mère de Jésus, la mère de Marie. Et puis de l'autre côté, le portail de la Vierge, qui est la mère de Jésus.
Alors justement, pour cette année jubilaire, pour ce 850e anniversaire, on peut dire que la cathédrale a revêtu ses atours de fête et vous avez installé sur l'esplanade, devant le parvis, vous avez installé cette espèce d'immense rampe là qui s'appelle le chemin du jubilé. C'est une façon d'accueillir les pèlerins ?
Oui, justement, vous avez raison, on a voulu mettre un peu des habits neufs. Et donc sur ce parvis, on a voulu que ce soit pas, non, c'est pas une patinoire, c'est pas une piste de ski. J'ai voulu reprendre l'idée de la vieille rue qui était sur le parvis autrefois, qui s'appelait rue Neuve Notre-Dame.
Et oui, qui n'existe plus puisqu'elle a été arrasée.
Un mal à tout, oui, voilà. Tout envoyé. Mais ceci étant dit, pour donner un centre et reprendre avec ce beffroi qui est au fond, un beffroi moderne, pour que tous ceux qui viennent de partout puissent avoir un lieu où ils se sentent accueillis. Et on arrive comme ça au bout de 70 mètres, en contemplant vraiment la façade, tête à tête, face à face, de manière à ce qu'à 5 mètres de hauteur, on soit débarrassé des contingences du sol et qu'on soit tout entier tourné vers cette façade pour comprendre ce que cette façade a à nous dire.
Alors nous sommes entrés donc dans cette cathédrale. On est toujours surpris lorsqu'on entre à Notre-Dame de Paris du caractère relativement sombre de cette église par rapport à un grand nombre de cathédrales gothiques qui sont plus lumineuses. Nous reviendrons dans un instant sur son architecture et au fil de cette émission, bien entendu, nous allons détailler un certain nombre des points particuliers de cette église, de ses traits les plus saillants. Vous savez, lorsque les les visiteurs viennent ici à Notre-Dame, alors il y a une véritable foule qui est en train d'entrer derrière nous et qui ne cesse d'entrer.
Silence, vous dites... je vous signale. On dit toujours qu'il y a du bruit, mais regardez.
Mais non, c'est vrai.
À part nous, il n'y a pas de bruit.
C'est vrai. Nous sommes très privilégiés, nous, aujourd'hui, auditeurs d'Europe 1, puisque lorsqu'on veut visiter au mieux Notre-Dame, généralement, on vous dit, il faut que vous demandiez à Jean-Pierre Cartier, qui est le grand connaisseur des lieux et qui vous fera visiter ça mieux que quiconque. Eh bien, il est avec nous. Bonjour, Jean-Pierre Cartier.
Bonjour.
Merci infiniment.
Bonjour, monsieur.
D'être des nôtres. Alors, il faut que vous nous disiez pourquoi cet anniversaire, c'est 850 ans. Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Si je compte bien, 2013 moins 850, ça fait 1163.
Alors, 1163, c'est la date qui est habituellement retenue pour la pose de la première pierre de la cathédrale au moment où on a construit le chœur. Et c'est déjà cette date qui avait été retenue pour le 800e anniversaire.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que, et on le sait de mieux en mieux grâce à un certain nombre de sondages et de travaux archéologiques, c'est qu'avant cette cathédrale gothique, il y en a eu une autre, et avant la précédente, il y en avait même probablement une troisième, enfin une toute première, je devrais dire.
Oui, sur les cathédrales antérieures à Notre-Dame, il y a beaucoup de discussions actuellement, mais il y a eu de toute façon, de toujours, à partir du moment où il y a une communauté chrétienne, il y a un évêque, il y a une cathédrale, puisque à l'évêque est liée donc sa cathèdre. Dès certainement la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle, il y a donc eu une église cathédrale. Cette église cathédrale, elle a reçu un peu plus tard la titulature de Saint-Étienne. Et ça a été l'église cathédrale. Entre ce moment donc du début du 5e, 6e siècle et puis le 12e siècle, où Maurice de Sully va lancer son projet. Il y a eu une succession d'autres édifices et il y a eu une église, Sainte-Marie ou Notre-Dame, comme vous voulez, qui a été l'église des chanoines.
Alors, vous parliez de cet évêque qui siège donc ici. Le premier évêque de cette cathédrale, celui qui en lance les travaux, c'est Maurice de Sully. On est sous le règne de Louis VI à l'époque.
Hein, de Louis VII.
De Louis VII. Donc Louis VII, c'est ce roi particulièrement chrétien. C'est le mari d'Aliénor d'Aquitaine, hein, qui va partir pour la croisade, etc. Louis VII va décider, avec Maurice de Sully, de construire une église d'un genre nouveau. Il y a quelque chose de neuf dans la conception de Notre-Dame.
Oui, ce n'est pas une décision royale de construire la cathédrale, c'est une décision épiscopale. C'est-à-dire que c'est la décision de Maurice de Sully, donc de le faire à partir donc, de 1163.
Alors, ce qui a été construit en premier, comme toujours évidemment, c'est le chœur et la croisée du transept. Nous allons nous avancer dans la nef et nous retrouver là-bas pour continuer cette histoire de Notre-Dame de Paris aujourd'hui sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui sur Europe 1, nous sommes précisément au cœur de la cathédrale Notre-Dame et notre guide se nomme Franck Ferrand.
À mesure que nous cheminons dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, nous avons donc emprunté la nef du centre pour avancer jusqu'à cette croisée du transept. Ça, c'était absolument magnifique, Jean-Pierre Cartier, car nous voyons d'ici, bien sûr, les trois grandes rosaces qui sont l'ornement majeur de l'église.
Oui, nous sommes ici véritablement dans un lieu tout à fait privilégié, puisque de ce point-là, nous apercevons d'une part la rose occidentale, celle donc que l'on aperçoit
sur la grande façade,
qui est la rose la plus ancienne de la cathédrale, puisqu'elle date de la première moitié donc du XIIIe siècle, des années 1230, mettons, pour ne pas entrer trop long sur les dates. Et d'ici, nous apercevons bien sûr les deux grandes roses qui sont le joyau de Notre-Dame de Paris, la rose du Nord, ici, qui nous présente eh bien, avec toute une série de personnages de l'Ancien Testament, la longue attente vers la venue du Messie, tandis qu'au sud, on a donc la rose du Midi, et cette rose du Midi nous présente le temps de l'Église.
Alors nous n'avons pas un très grand soleil ce midi, donc on ne peut pas dire que ces roses soient dans leur plus belle apparence, mais ce qu'il faut dire c'est qu'elles modifient complètement la lumière intérieure, hein, de la cathédrale et elles lui donnent ce côté assez magique.
C'est-à-dire que, oui, plus que magique, elle lui donne un côté qui est un côté qui transforme l'espace de la cathédrale en un espace de contemplation où la lumière, puisque Dieu est lumière, au travers de ses vitraux, vient illuminer et transformer le fidèle qui prie et donner l'image, l'icône de ce que sera la Jérusalem céleste.
Alors, les grandes tours de Notre-Dame que nous voyions tout à l'heure avant d'entrer sont achevées au milieu du XIIIe siècle, vers 1250. Quant aux chapelles rayonnantes qui sont autour, hein, qui font l'ornement du chevet, elles sont achevées en 1330. Ce qui veut dire que, dès le début du XIVe siècle, l'Église est prête et prête à devenir la cathédrale non seulement de Paris, mais quelque part, on peut dire, de la France, puisque la monarchie s'installe ici.
Oui, alors cette cathédrale, et bien sûr comme toute cathédrale, la cathédrale d'un diocèse, qui deviendra un peu plus tard un archidiocèse.
Mais d'ailleurs.
Très tard, au XVIIe siècle seulement. Cette cathédrale, par le fait que Paris soit la capitale, eh bien, devient en quelque sorte, oui, la cathédrale de la France, par les événements historiques qui s'y sont produits.
Alors tout à l'heure, nous irons pour finir cette émission dans les jardins de l'archevêché, au pied du chevet, et nous parlerons justement de toute cette histoire incroyable et des très grands événements qui ont marqué, qui ont scandé la chronique de Notre-Dame. Bonjour Thierry Crépin-Leblon, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes un habitué de cette émission, et les auditeurs d'Europe 1 savent que vous êtes le directeur du musée de l'histoire de France au château des Coins, mais vous êtes aussi l'un des historiens de cette cathédrale. Alors, ce qui est très remarquable, c'est que cette église, évidemment, est d'un style gothique, un gothique assez primitif, en quelque sorte. Hein.
Faussement. En fait, ce qui compte ici, c'est qu'un architecte du premier gothique, comme on aime à dire, pour Maurice de Sully, a conçu une immense cathédrale, la plus grande de son temps, et les architectes qui l'ont suivi, curieusement, on a tout envie de dire, ont respecté ce projet initial.
Et ils l'ont respecté jusqu'au bout, quand je dis jusqu'au bout, jusqu'au restaurateur du XIXe siècle, le célèbre Viollet-le-Duc, bien entendu, qui restera dans la tradition lancée par Maurice de Sully. Alors, il y a un grand moment, c'est l'aménagement intérieur du chœur, c'est la rénovation, en quelque sorte, de Notre-Dame, à partir du vœu de Louis XIII au XVIIe siècle.
Effectivement, dès le XVIe siècle, un certain nombre d'éléments sont repérés comme en mauvais état, peut-être dépassés. Rosso Fiorentino de Fontainebleau, qui était chanoine de Notre-Dame, vient refaire les stalles du chœur. Mais surtout, Louis XIII voulait un fils. Il a voué son royaume à la Vierge. Et lorsqu'il a eu enfin ce futur Louis XIV, il a décidé que serait refait le chœur. Et c'est cet enfant du miracle, Louis XIV, qui met en place tout un nouveau décor que Viollet-le-Duc a en partie respecté.
Avec un maître-autel 17e,
un revêtement de marbre,
si vous voulez,
encore voir dans certaines églises de Paris, mais que Notre-Dame a rendu à l'art gothique en gardant les sculptures du début du XVIIIe siècle et les stalles. Donc il y a une synthèse, là encore, qui est tout à fait dans la droite ligne de l'architecture.
Le jubé n'existe plus, mais le chœur est toujours là avec ses stalles magnifiques. Nous nous y rendons, nous nous y retrouvons dans quelques instants.
La Hotte de Noël Europe 1.
Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël.
Et pour tenter de gagner un séjour détente et relaxation d'une semaine pour deux personnes dans l'Institut Thalazur Thalassothérapie Spa, 4 étoiles de Port Camargue en formule demi-pension, avec également 3 soins par jour et par personne, 2000 euros. C'est la valeur du séjour, c'est peut-être le vôtre. Alors inscrivez-vous au tirage au sort. Je vous redonne le mot de passe. Vous envoyez le prénom Franck CK à la fin par SMS au 739-21, 50 centimes plus code à SMS, ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. On vous souhaite avec Franck bonne chance à tous et nous annoncerons le nom du gagnant en fin d'émission.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Pour une émission exceptionnelle depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, Franck.
Oui, Julia, nous sommes toujours bien sûr dans cette merveilleuse cathédrale. Nous sommes à Notre-Dame de Paris pour l'ouverture des célébrations de ce 850e anniversaire. Et c'est toujours Monseigneur Jacquin qui nous accompagne.
Oui.
Monseigneur, le vœu de Louis XIII a eu un effet considérable, puisque si l'on ne lève pas trop les yeux et qu'on voit les bas-reliefs extraordinaires de ces stalles, que l'on voit l'ensemble baroque qui entoure le maître-autel, on a l'impression là d'être au XVIIe siècle, précisément.
Absolument. Mais vous savez, le roi Louis XIII qu'on voit à droite, qui présente sa couronne, en fait c'est bien ça l'extraordinaire du vœu de Louis XIII, au-delà des problèmes de sa famille et tout ça, mais
c'est surtout la consécration de son royaume, de ses sujets, de toute la nation au Seigneur. Et c'est ce vœu-là qu'on célèbre tous les ans, à la demande même du roi, ici à Paris.
Qu'on continue de célébrer.
Bien sûr, et en France, tous les ans, que ce soit à Paris, à Lourdes ou ailleurs, chaque 15 août, puisque c'est la date retenue, nous célébrons cette consécration du royaume, des sujets, des personnes, de tout le monde, à Marie et au Seigneur. Et donc, et du royaume de France, et de l'État. Et chaque année, il y a des milliers de personnes qui sont sur des bateaux, 15 bateaux sur la Seine le 14, et puis 10 000 qui sont à pied à Paris le jour du 15 août, présidés par un cardinal de Rome ou de France. Et je crois que c'est quelque chose de très très important qui a traversé toutes les générations et qui nous rende chaque 15 août encore plus fiers d'appartenir à ce magnifique pays. Pays qui a été consacré tout entier, eh bien, à Marie et au Seigneur.
Le magazine Pèlerin accompagne toutes ces cérémonies chaque année et il accompagne cette année, bien sûr, le 850e anniversaire. Alors, un numéro spécial est déjà dans les kiosques, un numéro avec des photos extraordinaires. Et puis, ce qu'il faut dire, Catherine Lalanne, bonjour Catherine, vous êtes la rédactrice en chef de Pèlerin, c'est que vous avez fait également un numéro spécial pour le numéro qui est sorti hier, en fait. Hein.
Tout à fait, nous avons deux propositions en kiosque, à la fois l'hebdomadaire, qui est consacré à Notre-Dame cette semaine et qui est en kiosque depuis hier avec des clichés inédits. Et pour ceux qui en veulent encore davantage, un hors-série très visuel, exceptionnel, de 100 pages, somptueux, avec des images époustouflantes.
Alors ces images époustouflantes, elles ont été réalisées d'une façon assez inhabituelle puisqu'elles ont été prises à partir d'un ballon radio-commandé. Alors avec le photographe lui-même, nous allons en parler dans un instant. Ce que ça vous permet à vous, c'est de nous offrir un point de vue différent sur Notre-Dame et non seulement sur les extérieurs de la cathédrale mais aussi sur l'ensemble des décors intérieurs.
Tout à fait, tout à fait. Nous avons, comme nous avons la passion du patrimoine à Pèlerin, nous avons voulu renouveler, dépoussiérer son image. Et c'est pour ça que nous avons voulu offrir une vision aérienne de Notre-Dame de Paris. Une vision qui combine à la fois, je dirais, le choc de la surprise et la beauté de la découverte, puisque grâce au ballon radiocommandé de notre photographe Stéphane Compoint, nous pouvons prendre de la hauteur, prendre des photos à vol d'oiseau ou à hauteur d'ange, si vous préférez, qui donnent des points de vue inédits, des angles, des prises de vue inédites et en même temps qui mettent à portée de tous des détails qui sont complètement invisibles à l'œil nu.
Ça n'a pas été très facile du point de vue des autorisations parce que à partir du moment où il y a un ballon, il faut des autorisations de la préfecture de police et de la ville de Paris. Alors c'est pas évident ça bien sûr.
Dans Notre-Dame de Paris, il y a Paris. Voyez.
Mais oui.
Et Paris n'est pas une capitale comme les autres, c'est une ville qui n'a pas le droit d'être survolée. Et donc, obtenir une autorisation est tout à fait exceptionnel. Donc nous avons pris le taureau par les cornes, si j'ose dire, et nous nous sommes mis en chantier il y a un an.
En année d'élection présidentielle,
tout
de changement
fait,
de préfet,
de
tout ça, c'est pas
préfet,
évident.
Donc pour obtenir les tampons de l'aviation civile, de la préfecture de police, ça n'a pas été une mince affaire. Heureusement, Monseigneur Jacquin, que je tiens à remercier ici, et l'équipe des 850 ans de Notre-Dame de Paris, a cru à notre projet dès le début et nous a aidés à obtenir toutes ces signatures.
Bonjour Stéphane Compoint. Vous étiez venu nous parler du Mont-Saint-Michel il y a quelque temps dans les studios d'Europe 1. Alors là, nous sommes sur place. Vous avez travaillé ici pendant des semaines pour réaliser ces clichés magnifiques. Je vous promets qu'au-delà du numéro spécial de Pèlerin, ces clichés vont devenir des musts. J'imagine que les gens vont vouloir avoir des posters chez eux, etc. parce que ce sont des photos absolument magnifiques.
C'est l'intérêt principal de mon ballon, c'est de pouvoir découvrir l'intérieur d'une cathédrale comme Notre-Dame. Vous voyez, là, nous sommes dans le chœur. L'ensemble des vitraux du chœur sont quasiment invisibles depuis le sol. L'intérêt du ballon, c'est de pouvoir monter vraiment à hauteur des vitraux et de les voir face à face. Le dialogue entre l'appareil photo et le vitrail peut s'installer.
On est en hauteur et en même temps on n'est pas trop haut, c'est pas vu du ciel. C'est-à-dire que c'est vu à hauteur d'ornement. On a l'impression de pouvoir de redécouvrir la cathédrale. Puis vous nous offrez des angles nouveaux, toutes les roses sur un même cliché par exemple. Ça c'est tout à fait extraordinaire. Hein.
Alors oui c'est vrai, j'ai eu une émotion particulière avec cette photo que j'ai réussi à faire des trois rosaces qui sont vraiment les trois icônes de la cathédrale. j'ai réussi à trouver un angle où sur la même image, sur le même cliché, on voit les trois rosaces. Et c'est vrai que c'est un instant d'émotion pour un photographe.
Catherine Lalanne, avec ce numéro spécial et ce hors-série, vous êtes dans la tradition de pèlerin et dans votre goût pour le patrimoine, il ne faut pas l'oublier. Notamment, il faut rappeler notre concours « Un patrimoine pour demain ».
C'est vrai, nous avons un pèlerin, le patrimoine dans le sang, si j'ose dire. C'est un journal très enraciné qui croit, qui a la conviction que tout ce qui dure, tout ce qui relie les hommes, les aide à tenir debout et qui croit vraiment aux vertus de la transmission. Et c'est vrai, comme vous le rappelez, nous n'avons pas attendu l'engouement pour les journées du patrimoine pour le défendre. Nous avons lancé il y a 22 ans un concours, un patrimoine pour demain, une fondation qui aide les bénévoles à restaurer le patrimoine, dont vous êtes l'ami depuis longtemps, Franck Ferrand, et dont vous avez accepté d'ailleurs cette année d'être le parrain.
Alors avec Monseigneur Jacquin, avec vous Catherine, Stéphane Compoint, nous allons tous, et puis toute l'équipe, parce qu'évidemment nous sommes venus avec toute notre petite équipe d'Europe 1, nous allons nous rendre dans le trésor de Notre-Dame et voir ce qu'il reste de cet extraordinaire trésor.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Franck Ferrand qui se trouve aujourd'hui depuis Notre-Dame de Paris.
Nous avons quitté le cœur de Notre-Dame et nous entrons dans ce qui est dans les salles qui sont consacrées au trésor. Alors Thierry Crépin-Leblond, à l'entrée, nous avons ici une tunique qui est célèbre, c'est la tunique de Saint-Louis. Elle faisait partie du trésor de la Sainte-Chapelle, il faut dire.
Effectivement, la Révolution française est passée par là et les grandes reliques, les reliques de la Passion du Christ, les reliques de Saint-Louis sont venues à Notre-Dame pour continuer à donner un enseignement aux fidèles et aux visiteurs. C'est la tunique elle-même et la discipline, puisqu'on sait qu'en priant, il se flagellait pour obtenir en quelque sorte réparation des actions que son métier de roi l'obligeait à faire.
Alors nous allons avancer vers la salle principale. Évidemment, ce trésor n'est plus celui qui était ici à Notre-Dame sous l'Ancien Régime.
Non, un très joli document montre l'état du trésor sous l'Ancien Régime.
Nous passons
avant
devant,
les travaux de Soufflot. C'est l'évêque Guillaume d'Auvergne qui avait installé entre le palais épiscopal et la cathédrale ce lieu qui était un lieu interdit où on mettait les reliquaires, les vêtements religieux et les vases sacrés. Et bien sûr, à la Révolution, tout ceci a disparu ou est passé entre des mains publiques. On en trouve les quelques restes à la Bibliothèque nationale, au cabinet des médailles.
C'est au moment de la terreur, c'est en 93 que tout ça est profané?
En fait, ça a été la saisie des biens du clergé par la nation. On n'a pas, contrairement à Saint-Denis, conservé dans l'intérêt des arts la plupart des reliquaires qui ont été fondus. Les reliques, en revanche, ont été sauvées pour certaines d'entre elles. Et lors de la grande restauration de la cathédrale, où Viollet-le-Duc a construit l'édifice où nous nous trouvons, il a aussi prévu un mobilier et fait faire, sur ses propres dessins, par Poussiel-Geruzan, des objets d'art qui sont le véritable trésor de Notre-Dame, destiné notamment à l'origine.
Le nouveau, si l'on peut dire, le nouveau trésor de Notre-Dame.
Exactement, mais celui qu'on est toujours ravis de découvrir, d'autant plus que sa présentation a été récemment rénovée et cela en fait une véritable splendeur à apprécier. Sans cesse.
Nous sommes dans des salles qui étaient autrefois consacrées au trésor lui-même.
Oui, c'est Viollet-le-Duc qui a décidé d'en faire à la fois la sacristie et le trésor. Mmh. Et l'évolution de l'utilisation du bâtiment a permis de déployer davantage le trésor. Mais nous sommes bien dans des éléments du 19e siècle.
C'est ça, voilà.
Si on était sous l'Ancien Régime, on serait dans le palais de l'évêque.
Oui, autrefois il y avait ici un palais sur lequel d'ailleurs vous avez vous-même fait votre thèse.
Effectivement.
Alors Jean-Pierre Cartier, décrivez-nous un peu les merveilles de mobilier liturgique qui sont autour de nous, notamment des ostensoirs extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut voir dans toutes ces vitrines? Ce sont des vitrines néo-gothiques magnifiques du reste.
Oui, ce sont des vitrines néo-gothiques tout à fait remarquables que l'on a dans cette grande sacristie, comme nous l'appelons aujourd'hui à Notre-Dame, qui est toujours d'ailleurs la sacristie de l'archevêque et qui fonctionne dans ce sens-là, mais en même temps donc la salle d'exposition du trésor. Alors les pièces d'orfèvrerie qui nous entourent ici, ce sont des pièces d'orfèvrerie qui datent donc du 19e siècle et on peut apercevoir par exemple de l'endroit où nous sommes les deux reliquaires de la Sainte-Chapelle. l'enceinte couronne d'épines, celui donc qui a été réalisé à l'époque de Napoléon Ier, et lui faisant face le reliquaire donc qui a été réalisé à l'époque de Napoléon III. Il y aurait bien sûr un troisième reliquaire de la couronne d'épines, c'est le reliquaire actuel, qui se trouve dans la chapelle d'Aix de la cathédrale, devenue chapelle capitulaire de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Lorsque j'étais étudiant et que je suis venu voir d'un peu plus près Notre-Dame de Paris, parce que je l'avais visitée avant en touriste un peu rapidement, j'ai eu la très grande surprise d'apprendre que la plupart des pierres ne sont pas médiévales. Cette église a été constamment rénovée, restaurée, et elle a subi au XIXe siècle une restauration extrêmement lourde, disons-le.
Elle a subi au XIXe siècle une restauration très très importante, et le bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement est un bâtiment du XIXe siècle, complètement, hein, c'est la sacristie, donc la troisième sacristie en quelque sorte de Notre-Dame, refaite à l'époque de Viollet-le-Duc, et c'est par ces travaux-là que l'on a commencé les travaux du XIXe siècle sur la cathédrale. On a d'abord construit la nouvelle sacristie, et ensuite donc Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus, tout de même, oui, citons son nom, ont entrepris les travaux sur la cathédrale elle-même.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à une époque historiciste d'intérêt pour le patrimoine, pour le Moyen-Âge, et que, bien entendu, le succès de Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo, a joué un rôle dans ces entreprises.
Tout à fait, tout à fait. Ça a été un élément déterminant dans ce goût pour le gothique, renouveau, n'est-ce pas ? Et le roman très célèbre de Victor Hugo en 1831, donc, va redonner ce goût pour le néo-gothique tel qu'on le construit ici. Mais dans le projet que Viollet-le-Duc et Lassus font pour la restauration de cette sacristie, eh bien, ils ont eu beaucoup d'hésitations, puis ils ont opté pour ce pari, n'est-ce pas, de quelque chose qui ressemble au gothique du XIIIe siècle.
Y compris dans la période la plus récente, depuis le couronnement de Napoléon en 1804, le Te Deum de la Libération, évidemment, en 1944, les visites de trois papes, Pie VII et beaucoup plus récemment Jean-Paul II et Benoît XVI, on peut dire que Notre-Dame continue de vivre au rythme de l'histoire de France. Nous allons en parler dans un instant, et pour ce faire, si le temps le permet, nous allons sortir dans le jardin de l'archevêché et contempler le magnifique chevet de la cathédrale.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre.
Le temps des cathédrales, Bruno Pelletier, extrait de Notre-Dame de Paris, comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cotchand, puisqu'on vous retrouve, Franck, à Notre-Dame de Paris, et on me dit dans le casque que vous avez quitté la nef, je crois.
Oui, nous sommes ressortis, Julia, et nous sommes donc cette fois dans les jardins de l'archevêché, toujours sur l'île de la Cité. Nous avons sous les yeux le chevet de Notre-Dame, qui est encore plus spectaculaire peut-être que la grande façade ouest. Alors pendant l'interruption, Monseigneur Patrick Jacquin me faisait observer que j'ai employé le terme Te Deum pour parler des célébrations de la Libération. Or, ce n'est pas un Te Deum qui a été chanté ce jour-là. Je précise juste que c'est le fameux moment où a eu lieu cette fusillade. Enfin, il y a eu des coups de feu, en tout cas, sur le parvis de la cathédrale. Et l'on dit que seul le général de Gaulle et le général Leclerc sont restés debout, alors que tout le monde, évidemment, se baissait pour essayer d'échapper à la fusillade. Monseigneur Jacquin, c'était donc pas un Te Deum ?
C'était pas non plus forcément une fusillade, c'était pas forcément un Te Deum. Non, enfin, je crois que ce que l'histoire retient, c'est que devant la porte de la cathédrale, De Gaulle et Leclerc sont arrivés après avoir descendu les Champs-Élysées, bien sûr, la Libération, évidemment. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, probablement à l'extérieur et probablement de joie, et en tous les cas pas dans la cathédrale. On n'a pas retrouvé d'impact dans les voûtes ou tout ça. Enfin, ça, l'histoire l'écrira un jour.
Et pour la cérémonie jubilaire, là, vous allez faire donner à la fois le Te Deum et le Magnificat.
Le Te Deum au début en entrant, oui. Parce qu'on rendra grâce à Dieu pour cette cette joie extraordinaire d'entrer pour une année jubilaire avec tout le peuple chrétien. Et puis le Magnificat de ton royal avec la maîtrise et les deux grandes, et les, la grande orgue et l'orgue de chœur qui nous feront chanter ce grand Magnificat à la sortie en ayant sous les yeux la Vierge du Pilier et la Vierge de la Pietà. Donc c'est sûr que pour nous, ce sera un grand moment d'émotion.
Il y a eu tellement de grands événements historiques dans cette cathédrale, bien entendu. Depuis Philippe le Bel, on a cessé d'organiser ici des cérémonies. Celle qui reste dans le monde entier la plus connue, c'est évidemment le sacre de Napoléon en 1804.
Oh, il y avait des décors absolument extraordinaires et somptueux qui avaient été faits dans la cathédrale. Ils ont dû passer des journées et des journées, mais il est vrai qu'ils avaient beaucoup de main-d'œuvre et que c'était peu cher à l'époque, donc on était dans une autre planète à ce moment-là. Mais depuis, évidemment, nous nous sommes retrouvés chaque fois qu'il y a eu des moments de joie ou des moments de peine dans le monde, en France ou dans le monde. Je me souviens l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, ou celui de Madrid, ou celui de Londres, ou la catastrophe du Japon, mais aussi des grands moments de joie, quand le pape Benoît XVI est venu, quand Jean-Paul II par deux fois est venu ici à Notre-Dame, et en particulier la béatification d'Ozanam, une grande figure de charité au cœur de la ville.
Thierry Crépin-Leblond, c'est intéressant le point de vue que nous avons, même si nous sommes un peu près peut-être de la cathédrale. Et il vaut encore mieux être évidemment dans la salle à manger de la Tour d'Argent. Là-bas, on a une vision plus englobante, évidemment. Que nous apprend, ou à l'Institut du monde arabe, c'est un peu moins coûteux, évidemment.
Mais ici, on a la vision des travailleurs. On aperçoit des restes de peinture murale qu'il n'est pas donné à tous de goûter. Et on a toutes ces enveloppes successives qui, en fait, pour le chevet, remontent au XIIe siècle.
Oui.
On voit tout là-haut la frise de billets de ces petits denticules qui remontent à Maurice de Sully. Au-dessus, les crochets mis en place au XIIIe siècle quand on a remonté la toiture et surélevé la cathédrale. Les colonnettes des fenêtres primitives agrandies au XIIIe siècle. Et ces gigantesques culées d'arc-boutant qui permettent de jeter l'eau par les gargouilles à plusieurs mètres et qui ont été installées dans les années 1300.
Oui.
Alors les gargouilles sont remplacées bien sûr par Viollet-le-Duc,
oui, voilà.
Tout comme les fameuses striges et autres monstres des tours, qui cependant remplaçaient
comment les appelez-vous ?
Les fameuses striges.
Ah ben on va apprendre un mot, expliquez-nous.
Oh, c'est simplement un type de monstre qui se rapproche de la chimère, mais qui a une face démoniaque. On voulait montrer bien sûr, tous les mauvais esprits et autres démons étaient chassés de Notre-Dame, et en même temps étaient présents tout autour pour rappeler le fidèle à ses devoirs. Pour autant, le chapitre cathédral a fait abattre les culture du Moyen-Âge, car elle menaçait de tomber sur les fidèles qui approchaient. Et c'est au XIXe siècle qu'on a mis en place les fameuses sculptures qu'on voit notamment sur les photos reproduites partout et qui ont certainement beaucoup suscité des aspects hugoliens chez bien des visiteurs.
Je me rappelle qu'étant petit, on me parlait de Notre-Dame de Paris et j'avais répondu « Ah oui, c'est l'église qui est toute noire ». Eh bien aujourd'hui, elle est toute blanche. Il faut dire que des travaux de restauration considérables ont été menés hein, et que ça, on a retrouvé Notre-Dame. On la redécouvre depuis quelques années.
Exactement, depuis des décennies, il faut intervenir partout, restaurer les parois extérieures, blanchir les parois intérieures, remettre les vitraux en état. Il y a là une attention constante qui montre que la France, quoi qu'on en dise, se préoccupe effectivement de son patrimoine.
Et pour une fois, Monseigneur Jacquin, on peut visiter Notre-Dame quasiment sans échafaudage.
Alors, il y en a un petit peu à gauche encore. Et puis ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il n'y en aura pas, parce que vous savez, il faut refaire tout le chevet. Et il faudra le faire, mais je tiens à souligner que l'État, depuis 10 ans, ça fait à peu près 10 ans que je suis là, je pense qu'ils ont déjà mis au moins 10 millions d'euros avec le plan de relance, avec tout ça. Et à l'intérieur de la cathédrale, on remet tout aux normes pour l'anti-feu, l'anti-incendie.
Et oui, bien sûr, c'est très important.
Jusqu'en... Il n'y avait rien jusque-là.
Ces travaux contre l'incendie.
C'était mon cauchemar le plus favorable, c'était de penser que la forêt de la Charpente aller un jour prendre feu comme ça fait à Nantes ou bien au Parlement de Rennes.
Et, oui.
Et donc maintenant, ça va
ou à Lunéville.
Enfin. Oui.
Alors, on peut dire en tout cas, je vous garantis que sur les photos de Stéphane Compoint dans le numéro hors-série de Pèlerin, que vous pouvez trouver dans les kiosques en ce moment, il n'y a pas d'échafaudage, il y a simplement la majesté et la splendeur d'une cathédrale où vous nous avez magnifiquement reçus. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous nous retrouvons lundi.